L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Vous êtes à l'écoute de l'EM, l'émission sur Radio Évasion, et c'est une émission que nous réalisons avec les élèves du DITEP Jean-Louis Etienne à Brest. Les élèves prennent la parole dans l'EM et on vous propose une série de reportages. Mais sur quel sujet d'ailleurs, Wyatt ?
Nous avons été à Sarrivoile, à l'écomusée des Monts d'Arrée, pour une série de reportages. Aujourd'hui, ce sera la première émission. On va découvrir le musée, ses maisons anciennes et les gens qui y travaillent.
Très bien, allons-y. De quoi va nous parler ce premier reportage, Wyatt ?
Antoine, médiateur à l'écomusée, nous explique comment on fait le beurre. On va découvrir les maisons, le mode de vie des habitants et la recette du beurre. On écoute.
Les garçons, vous savez de quoi on parle ici un peu à l'écomusée ? Parce qu'on va faire un peu un voyage dans le temps là.
Oula, on va aller à l'autre ?
Non, on va aller faire un...
Non, voyage dans le temps. C'est-à-dire on revient en arrière.
Ouais, on va... En fait, ici à l'écomusée, on conserve... Bah, comme un musée, tu vois, il y a des musées qui conservent des tableaux. Tu vois, il y a des musées qui vont conserver des squelettes de dinosaures, des choses comme ça. Et ici, à l'écomusée, nous, ce qu'on va conserver, c'est des maisons, des habitats. Et le but est de montrer finalement comment les personnes, il y a 150 ans, 200 ans, elles vivaient. Parce, en fait, c'est pour ça qu'on fabrique du beurre. Parce que bon, aujourd'hui, on n'en fabrique plus. Hein. Moi, j'en fabrique que ici du beurre. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà fait. Mm-hmm. Non ?
Voilà. Ça ne me dit rien.
Mais en Bretagne, il y a pas si longtemps que ça, il y a 70-100 ans, toutes les personnes qui vivaient, qui étaient paysans, qui vivaient à la campagne, qui pratiquaient de l'agriculture, ils fabriquaient eux-mêmes leur beurre. Voilà, c'était quelque chose que tout le monde faisait. Un peu comme tout le monde va au supermarché aujourd'hui. Hein, on est obligé d'y passer. À l'époque, ils fabriquaient leur nourriture, leur alimentation, eux-mêmes pour une grande majorité, et le beurre en fait partie. Donc on va aller voir dans les maisons, on va aller visiter les maisons, et on va voir qu'à l'intérieur d'une maison, à l'époque, il y avait tout ce dont on avait besoin pour pouvoir faire du beurre. Ok ? Bon, allez, venez. Par ici, enfin, je sais pas si t'es prêt, toi, ça va ?
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en fait un voyage dans le temps en deux temps. Puisqu'on va aller dans une maison et un intérieur qui est typique d'un intérieur breton du territoire où on est, c'est-à-dire ici les Monts d'Arrée, ça s'appelle. Et d'il y a 170 ans, d'accord ? Donc vous allez un peu 170 ans dans le passé et on va aller voir comment c'est l'intérieur. Venez.
170 ans, la vache ?
Ouais.
Alors, on est il y a 170 ans, et en fait, les personnes dans cette maison pouvaient fabriquer du beurre complètement. Est-ce que vous savez ce qu'il faut pour faire du beurre ?
Non.
Du lait.
Ouais, du lait.
J'aurais dit.
Du lait, exactement. Il faut du lait. Et tu l'as mis où, la vache ?
Un peu de sucre.
Ah ?
Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir du lait ?
Ouais.
Ouais.
Ouais, tu traites la vache,
ouais. Tu traites la vache. Pour enlever le thé. Non, tu traites la vache, ouais. Mais c'est ça, hein. Exactement. Et en fait, ces maisons-là, elle est aménagée à l'intérieur pour pouvoir mettre les vaches. Mmh. Si on va de l'autre côté, venez.
Ça ressemble à un enclos ?
Oh, je fais ça.
Un peu.
Je suis beau.
En fait, ici, moi, je suis dans l'emplacement de la maison qui est dédié aux animaux. Et ici, t'avais l'emplacement pour mettre deux vaches directement. On les rentrait à l'intérieur. Ouais, tu pouvais en mettre deux ou une avec son veau ou deux avec son veau. Tu avais la place pour mettre ça. Et en fait, si on les rentrait à l'intérieur, les vaches, c'est tout simplement pour éviter qu'elles soient volées, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut créer de la chaleur aussi. Quand on est à l'intérieur, qu'on n'a pas beaucoup de chauffage, ça participe. Et en plus, ça permet de récupérer quelque chose dont on pense pas souvent, mais le fumier des vaches, leur déjection.
Ça ne devait pas sortir très très bon.
Oui, mais tu vas voir, je vais te montrer quelque chose. Il y a des aménagements pour pouvoir bien nettoyer la chose. On le récupérait, c'était pour le mettre dans les champs, pour pratiquer de l'agriculture. En fait, ça va nourrir la terre, et la terre qui est nourrie va permettre de faire pousser beaucoup de plantes.
Donc, ça se fait toujours, ça.
Oui, ça se fait toujours, complètement. Là, on te parle de choses qu'on faisait avant, qui sont toujours pratiquées. Hein. Et donc, les vaches, on les gardait ici pour pouvoir les traire. Puisqu'une vache, ça va se traire deux fois par jour, quand ça produit du lait. Donc, le matin et le soir souvent. Donc, c'est l'avantage. Le matin, elle est déjà dans la maison. On va la sortir la journée pour qu'elle aille manger de l'herbe à l'extérieur. Et on la rentre le soir et on peut aussi la traire. Et on récupère comme ça le lait. Donc, on a tout qui peut se passer ici. Votre camarade a dit, mais c'est dégoûtant. Effectivement, on peut penser avec ce que produisent les vaches, leur déjection, ça peut être assez sale. Mais ils avaient adapté l'intérieur d'une maison. Les maisons anciennes, comme celle-ci, des grandes maisons, parce que c'est une assez grande maison, elles sont souvent construites sur des sources d'eau. En fait, on va faire passer de l'eau à l'intérieur de la maison. Et si vous regardez votre sol, vous avez ici ce qu'on appelle de la terre battue, qui va faire un sol lisse. Et ils ont rajouté un dallage en pierre. C'est de la pierre de schiste. Et ce dallage, en fait, traverse toute la maison. Sous ce dallage, voilà, on avait canalisé de l'eau. Il y a de l'eau qui coulait en continu là-dedans, comme une source d'eau qu'on faisait couler. Et en fait, cette eau, on pouvait comme ça se débarrasser des déchets dedans et qui les emmenait plus loin. Les déchets qu'on se débarrassait, hein, par exemple les déjections des vaches, eh ben, on les canalisait pour que ça aille dans les champs qu'on avait cultivés. Ça permettait de nourrir la terre directement de l'intérieur. Voilà. Donc en fait, voilà, on peut dire que les normes d'hygiène sont assez différentes de ce qu'on a aujourd'hui, très clairement, hein, on est d'accord que ça nous ferait. Mais eux pensaient quand même à garder leur intérieur propre et pouvoir le nettoyer. Mais bon.
C'est pas bête comme solution en vrai, hein, parce que ça, c'est utiliser peu d'efforts quand même.
Ouais, c'est vrai, mais ils savent s'économiser, hein. ils ont une vie quand même dure, voilà, ils travaillent hein, tout au long de leur vie, ça ils s'arrêtent pas, mais ils savent quand même faire des petits aménagements pour se faciliter la vie. Une fois qu'on a récupéré le lait, parce que c'est le but hein, aujourd'hui de récupérer du lait, on va dans l'espace des humains. Le lait, en fait, il va être conservé dans des pots de lait. On conserve le lait à l'intérieur, et en fait, le lait, on va attendre. On va le laisser comme ça dans un coin pendant un ou deux jours. Parce que c'est pas avec du lait qu'on fait du beurre. C'est avec de la crème. Et en fait, la crème, bah, c'est ce que les paysans cherchent à avoir. Ils cherchent à en récupérer. Et la crème, eh ben, c'est la matière grasse qui est dans le lait. Pour la récupérer, on patiente. Et est-ce que vous avez déjà mis de l'huile dans de l'eau ?
Du lait fermenté, c'est ça ?
Non, c'est pas du lait fermenté tout à fait. Mais ça pourrait, on pourrait laisser en laissant patienter le lait. Après, il va fermenter effectivement. Mais est-ce que vous avez déjà mis de l'huile dans de l'eau ? Vous avez déjà fait cette expérience-là ?
Oui.
Peut-être, hein,
l'huile... Le liquide ne se mélange pas.
Exactement, et l'huile va remonter à la surface. Et l'huile, en fait, c'est de la matière grasse. Et la crème est une matière grasse, et donc, elle va remonter à la surface du lait. Et au bout de deux jours, bah, vous pouvez la ramasser avec une grande louche, ramasser votre crème pour la séparer de votre lait. Et la mettre, par contre, dans des pots comme ça, qui sont les mêmes pots que pour le lait, mais en plus petit. Vous rassemblez votre crème, vous faites un pot de crème, et dès que vous en avez assez, vous allez pouvoir vous lancer dans la fabrication du beurre. Ok ? Ça vous va, vous voyez les étapes avant qu'on arrive à la fabrication du beurre, faut qu'on récupère de la crème, et en grosse quantité. Hein. Et vous savez, par exemple, pour avoir 1 litre de crème, il vous faut 10 litres de lait. Donc vous allez toujours avoir beaucoup, beaucoup de lait, et à la fin, bah, assez peu de crème. Et pour avoir du beurre, vous verrez, on a besoin aussi de beaucoup de crème. Hop là, je mets devant vous, c'est un objet qui sert à fabriquer du beurre. On appelle ça une baratte. Vous avez déjà entendu ce mot ? Une baratte, en fait, c'est avec un objet où c'est un réceptacle. C'est toujours un réceptacle, comme ça, à l'intérieur de lequel on va mettre de la crème. Et le but de la baratte, vous avez ici un bâton avec un disque autour, ça va être de pouvoir remuer la crème à l'intérieur, d'accord ? Et en fait, en remuant la crème comme ça, vous allez pouvoir faire apparaître le beurre, tout simplement. Ok ? Mais je reviendrai plus précisément quand on va commencer à le fabriquer nous-mêmes, ok ? Sur tout ce qui se passe à l'intérieur, comment ça se fait qu'en remuant de la crème, on arrive à avoir du beurre qui apparaît, ok ? Ce que vous allez voir, c'est très simple, hein. Il suffit d'un seul ingrédient pour faire du beurre. C'est pas une grande recette, hein. Mais on va faire ça tous ensemble après. Ouais, alors, là, dans cette maison, je vous ai dit, on était dans une maison qui, avec un intérieur qui date des années, il y a 170 ans à peu près. On va aller la visiter, ok ? Regardez un peu autour de vous. Ce qu'on va faire, c'est que vous regardez un peu comment c'est fait à l'intérieur, la disposition, et vous allez me dire dans l'autre maison, bah, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est toujours pareil, ok ? On voit un peu mieux en plus avec le feu.
Il y a plus chaud, c'est sûr.
Alors, je vous avais dit qu'il fallait regarder un peu les différences. Est-ce que vous en voyez ?
Oui, que la maison a l'air plus moderne déjà comparée à
l'autre. Elle est plus grande.
Et effectivement,
elle fait un peu plus grande, ouais.
Et oui. Les lits ont changé.
Vous voyez d'autres différences ?
Il y a surtout qu'il y a une cuisinière.
Ouais, il y a une cuisinière, ça c'est déjà une grande différence. Avant, ils faisaient comment pour faire, pour cuire leurs aliments ?
T'as une idée ?
Avec le feu. Exactement, dans la cheminée. Et donc, dans cette maison-là, on continue à fabriquer du lait. On a des nouvelles barattes, des barattes un peu plus modernes. Vous pouvez en avoir une juste là. Si vous regardez, ouais, faut s'éloigner un peu du feu pour la voir. Elle est ici. Malgré des évolutions, l'arrivée de l'électricité, des cuisinières au charbon, enfin voilà, beaucoup de nouveautés dans les objets que les gens ont, ils continuent à avoir des pratiques et des modes de vie assez similaires. On fabrique soi-même son beurre, on vit dans des maisons avec une pièce, les lits qui sont à l'intérieur, qui sont tout dans une même pièce, mais on arrive à avoir des objets par contre nouveaux, c'est du métal, des choses qui sont, on va dire, manufacturées, fabriquées dans des usines. Bon, Je vous propose qu'on passe aux choses sérieuses et qu'on aille fabriquer du beurre, ok?
Combien de temps, du coup?
Oh bah là, ça dépend de l'énergie qu'on y met, hein, et on prendra toute l'aide possible, hein, pour cette activité. On va tous être sur 20-25.
D'accord.
Ah bah, c'est un boulot.
Pendant 20 minutes, je vais devoir être comme ça. Heureusement qu'on contrôlé, hein.
Et il y a aussi ici, hein. Il y a ici aussi. N'hésite pas à faire des grands gestes. Ce sera mieux en fait.
Et là, il faut y parler.
Ouais, fais attention à ce qu'il soit bien fermé, effectivement, ça peut être problématique.
Ah là, celui-là ouvert là.
Non, j'ai fermé.
Et il y en a un aussi ici, si vous voulez, si tu veux.
Tu veux essayer
pour un peu. Il y en a
un ici,
c'est normal. C'est pas grave.
Tiens, bah, mets-toi où tu veux, tiens. Hop là.
Bon.
Ça fatigue pas spécialement, c'est juste que t'as envie d'être un gros bourrin d'un coup.
T'es à 30 secondes, hein. Faut garder le rythme. Et c'est comme ça va aller plus vite. C'est ça que tu vas faire pendant 25 minutes. 25 minutes, ok. Mais faut le rythme, va plus vite, hein, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas à aller encore plus vite. Hein. Meilleur rythme. Continue. Pouvoir faire du beurre il y a 150 ans. Fallait déjà avoir une vache, c'est quand même assez important. Quand on avait une vache, il fallait la traire. On récupérait le lait. Et le lait, en fait, on n'allait pas le consommer directement pour fabriquer du beurre, on allait récupérer la crème qui est dedans. Et donc, pour récupérer cette crème-là, on n'avait pas encore des outils comme les crémeuses qui permettent de récupérer directement la crème du lait. On devait attendre. La crème, c'est de la matière grasse et elle va, en fait, affleurer à la surface du lait si on laisse patienter, reposer le lait. Et donc, au bout d'une journée, 36 heures, on pouvait récupérer avec une louche la crème du lait. Une fois qu'on avait récupéré assez de lait, donc sur plusieurs jours, on allait pouvoir barater la crème pour fabriquer du beurre. Le barattage, ça consistait à remuer la crème assez rapidement pour que toutes les molécules de matière grasse qui étaient dans la crème s'agglomèrent et deviennent du beurre. Une fois qu'on a fait le beurre, ici on est en Bretagne, il y avait une autre étape, enfin il y a deux autres étapes, c'est-à-dire qu'on va le rincer pour retirer tout ce qui n'est pas du beurre de la matière pour qu'il soit sec. Et ensuite, on va le saler pour le conserver plus longtemps. Voilà, et là on a du beurre salé sous la main à mettre sur des tartines.
Hey Pierre-Yves, à ton tour.
Bon, au moins on sait qu'on aura un peu de beurre, hein. On pourra se le partager sur une tartine si on finit pas. Hop. Et une fois qu'on a bien mélangé, qu'il est assez salé, on va pouvoir former une motte de beurre.
C'est beau.
Avec ses cuillères.
Et c'est je pense que c'est quelque chose qui coûte moins cher que d'acheter du beurre directement.
J'ai pas fait le calcul, je t'avoue. Mais tu travailles, hein. T'imagines que là, tu devrais faire une demi-heure ça tout seul. Bon, celle-ci, on va la manger, donc on va la laisser comme ça. Mais il faut imaginer qu'on peut vraiment... je vous montre. On peut vraiment modeler sa motte comme on le souhaite. Et la calebasse qu'on utilise ici peut vraiment permettre de lui donner assez rapidement une forme qui sera assez présentable. D'accord ? Bon, je vous montre ça, hein. Vous avez vu, là, il y a des petites techniques, hein, parce qu'après, ce sera à vous de faire la vôtre.
Tu dirais du Babybel, un peu.
Ouais, on dirait, c'est vrai que ça peut faire penser à ça. Parce qu'en plus, là, il fait assez chaud, hein. Faut se rendre compte que là, on le travaille, il y a le soleil depuis tout à l'heure. Bon, vous voulez goûter, quand même ?
Ouais.
Bon, allez, on va faire ça.
Effectivement, le beurre n'a plus de secret pour nous, après ça. Dans ce reportage, nous avons entendu quelqu'un nous parler du beurre. De qui s'agit-il, Wyatt ?
Nous avons entendu Antoine dans le précédent reportage. Il est médiateur à l'écomusée des Monts d'Arrée. Il nous présente la structure, son travail, au quotidien et ses missions.
Quel est votre métier ?
Moi ici, je suis médiateur. C'est-à-dire que j'anime, je fais des visites guidées, je propose aux gens des activités à faire autour de l'écomusée pour le découvrir et découvrir des façons qu'avaient les gens de vivre auparavant ou découvrir le territoire comme il est aujourd'hui. Ses paysages, ses habitants, son architecture. Voilà. Donc moi je suis là pour, je suis un peu l'intermédiaire entre les visiteurs et le site. Il y en a qui peuvent utiliser un guide de visite qu'on distribue, mais moi je propose des activités ou d'approfondir cette visite avec des activités.
D'accord. Pouvez-vous en dire plus sur votre métier au quotidien ?
mon métier au quotidien. Bah tu vois, typiquement là, moi je vous vois, je suis avec vous, on fait une activité, mais le musée est actuellement fermé, parce qu'on va avoir une saison qui va être d'avril à novembre. Et quand le musée est fermé, eh ben, nous on est une petite équipe à l'écomusée, on va avoir des travaux d'entretien qu'on ne peut pas faire quand c'est ouvert, on va refaire des barrières par exemple, on va avoir des travaux où on prépare la future saison, c'est-à-dire qu'on va accueillir une nouvelle exposition, donc on va préparer des activités autour de cette exposition, on va accueillir, on va proposer de nouvelles activités, donc ça va être des moments où on va travailler en équipe pour proposer ces nouvelles activités, faire des recherches sur des nouveaux sujets, essayer de proposer chaque année de nouvelles choses. Et donc moi j'ai aussi en tant que médiateur un travail de recherche, de création d'activités, qui est plus un travail de bureau, comme je vais avoir un travail d'entretien du site, des maisons ou un travail en extérieur. Mais ça c'est très lié au fait qu'on est une petite équipe comme je te disais, et que donc on pouvait se retrouver à faire énormément de choses différentes. Voilà.
Pouvez-vous nous parler de vos conditions de travail ?
Effectivement, oui, c'est vrai qu'on peut parler de la saisonnalité parce que là on est fermé, donc c'est un travail spécifique, mais dès que la saison arrive, on va proposer des fois plusieurs fois dans la journée des activités. Et on reçoit, nous, à l'écomusée, pendant les vacances, on a beaucoup de touristes qui viennent, donc on va proposer des activités beurre, on va proposer des activités où on va faire du pain sur la journée, on va proposer des activités où on va fabriquer des jeux buissonniers, ou des visites guidées comme on a fait au début, où je monte, j'explique les maisons. Mais aussi, on va avoir pendant les périodes scolaires, notamment la fin d'année, beaucoup d'écoles qui vont venir, et on peut comme ça faire plusieurs ateliers dans la journée pour accueillir les écoles, fabriquer du beurre encore une fois, découvrir la vie des enfants il y a 150 ans. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie saisonnalité dans le métier, puisque à des moments on va accueillir beaucoup plus de visiteurs. Vous êtes là nos derniers de l'année. On est vraiment dans une période très calme, vous avez de la chance, mais voilà. Donc on va avoir quand même des moments où on est plus avec les gens, plus avec le public, et d'autres moments où on est plus en bureau.
À quoi ressemblait le quotidien des familles dans ce village ?
Ici, à la maison Cornec, on est, le quotidien a beaucoup évolué. Parce que tu vois la maison qu'on a visitée, tu peux te dire que pendant 300 ans, elle a été habitée par des personnes. Donc elle a été habitée en 1680, en 1680, à l'époque où le roi de France était Louis XIV, jusqu'à 1978, où le président de la France était Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, dans une même espace, on va avoir des réalités différentes. Et nous, on essaye de traiter ça. Mais typiquement, un paysan, comme il en avait en 1700, va être quelqu'un qui va avoir comme quotidien de s'occuper de sa terre, de ses champs, de pratiquer de l'agriculture, de pratiquer un peu d'élevage. C'est-à-dire que le matin, quand il va se lever, selon la saison, il va avoir des activités différentes. Mais en été, il va, par exemple, faucher ses champs. Il va sortir ses bêtes afin de les emmener au pré pour qu'elles puissent se nourrir de l'herbe. En hiver, il va avoir d'autres travaux parce qu'il y a un peu moins de travail. Il va par exemple fabriquer des objets, des paniers, des balais, des outils dont il aura besoin pendant la belle saison. Dans les années 70, on a des gens qui viennent vivre ici, donc plus récemment, qui travaillent à côté dans une exploitation, qui fabriquent du fromage dans des fermes plus récentes, ce genre de choses. Mais donc on va avoir le quotidien finalement ici, et nous ce qu'on traite peut être très divers puisque la maison existe depuis plus de 300 ans. Voilà. Mais ce qu'on parle finalement, c'est des habitants d'ici, et donc on est dans un territoire rural, et donc ce sera forcément des modes de vie qui sont liés à cette ruralité, une forte présence de l'agriculture, un éloignement assez fort des villes. À Saint-Rivoil, même encore aujourd'hui, il est très difficile d'aller à un supermarché. C'est des modes de vie qui sont quand même encore très différents à chaque fois de la ville des gens qui vivent à Brest, par exemple.
Quand ont vécu les derniers habitants des maisons ?
Les derniers habitants des maisons, en fait, on a visité deux maisons et c'est pas la même date. Ici, dans celle-ci, la maison Boitorel, il y avait des personnes qui ont vécu ici jusque dans les années 70. Et dans la maison Cornec, vous avez des habitants qui ont vécu jusque dans les années 50, avant qu'elle devienne un écomusée. En fait, les habitations ici, souvent, les derniers habitants arrivent pas très longtemps avant que ce soit transformé en écomusée, qu'on décide de les conserver pour pouvoir montrer cette architecture et ces modes de vie. Voilà. Donc c'est, finalement, il y a des habitants il n'y a pas si longtemps que ça. Et des maisons du même type, qui ont été fabriquées à la même période, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent encore dans ce type de maison.
J'ai une question qui n'a rien à voir là-dedans, ouais. Je voulais savoir, comment vous avez eu pour avoir les lieux ?
Ici ?
Ouais. Vous avez acheté, vous avez vu comment ?
Ici, en fait, ça a été décidé pour la maison Corneille qui est ici. En fait, dans les années 60, ce qui se passe, c'est que les modes de vie des Français, en général, se modifient énormément. Et dans ces modes de vie, dans les modes de vie paysans, dans les villes, ça a déjà changé depuis longtemps, mais dans les modes de vie paysans, il y a une partie de la paysannerie et de ces modes de vie qui ont tendance à disparaître. Des gens, en fait, vont s'inquiéter de cette disparition, ou du moins de ne pas en garder de traces, tu vois, de ces modes de vie. Et donc, il sera décidé plusieurs choses. On va créer des parcs naturels régionaux. Ces parcs naturels vont permettre de conserver certains paysages qui étaient fabriqués par ces paysans. Quand ils font de l'agriculture, ils vont changer en fait le paysage qui est autour d'eux. Donc on va essayer de les conserver à travers ces parcs naturels. Et en plus, on va essayer de garder leur habitat, des témoignages de leur façon de vivre. Et c'est là où en fait, l'État ou les collectivités vont décider d'acheter ces maisons et de les créer en écomusée pour pouvoir conserver cette mémoire. L'idée en fait d'ici, c'est vraiment de pouvoir venir et de pouvoir voir... comprendre ces modes de vie qui ont disparu pour une partie.
D'accord, merci.
Et donc c'est ça, c'est des gens en fait, c'est vraiment des gens qui sont inquiétés de que ça disparaisse complètement et qu'on n'en ait plus aucune trace. Le but était de laisser une trace et de pouvoir continuer à en parler.
Merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous aussi.
Vous êtes toujours à l'écoute du LEM sur Radio Évasion. Nous sommes toujours à l'écomusée de Saint-Rivoil. Il y a quelques jours, on en a profité pour faire une autre rencontre juste à côté du musée.
Tout à fait, monsieur Pierre-Yves. On va découvrir Alain Jacob, pionnier à l'épicerie paysanne installée juste à côté de l'écomusée.
Donc j'étais agriculteur, j'avais une ferme avec des vaches et je transformais tout mon lait. Je ne faisais pas du beurre, mais je faisais du fromage. Voilà. Donc aujourd'hui, la ferme existe toujours, on fait toujours du fromage et on a aussi des cochons, on fait de la charcuterie. On est 3 ou 4 à. Ils sont 3 ou 4 à. Selon la saison, à 3 ou 4 à travailler sur la ferme. Et voilà. Donc moi j'ai participé, là vous êtes au magasin de Saint-Rivoil, magasin Brondaré, c'est un magasin de producteurs qui a été créé en 1994, et donc moi j'ai participé à cette histoire, cette idée de regrouper des producteurs sur le territoire pour leur faire vendre les produits de façon collective. Voilà, et donc on est en 2002, donc ça fait bientôt 30 ans qu'on est là. Et quelque part, en 94, il n'y en avait pas du tout dans le coin. Maintenant, il y en a plusieurs dans le Finistère. Voilà. Et souvent, dans des petites communes qui sont en difficulté, c'est là que naissent de nouvelles idées.
Pouvez-vous nous décrire l'endroit où nous sommes ?
Alors, ici, ce bâtiment-là, donc on est dans le jardin du presbytère. Donc, le bâtiment qui est derrière vous, c'est le presbytère de Saint-Rivoil. Qui était un bâtiment désaffecté qui appartenait au département. Et nous, un paysan des Monts d'Arrée, on a demandé à pouvoir se servir de ce bâtiment pour justement en créer un petit magasin. Et donc voilà, on est là depuis une trentaine d'années, presque.
Pourquoi c'est cher par rapport à d'autres magasins ?
Bonne question. D'abord, je ne sais pas si c'est vraiment si cher que ça, mais c'est une question peut-être un peu complexe. C'est cher d'abord, vous trouvez que les prix sont chers, parce que d'abord on est dans un magasin de producteurs, on n'est pas dans un magasin où on vend une alimentation issue d'une agriculture industrielle, avec souvent des coûts très bas, autant pour le producteur que pour le consommateur. Et donc ici, ce sont des paysans qui vendent en direct leur production, et qui transforme des petites quantités. Donc, petites quantités, ça fait des prix souvent plus élevés pour arriver à ce que le producteur gagne sa vie. Donc, ça vous a choqué les prix ?
Ouais, un peu.
Un peu ?
Je sais pas, les attendus, les prix. Ah !
Pardon ?
D'où viennent les produits ?
D'où viennent les produits ?
Oui, s'il vous
plaît. Les produits, donc, ce sont les producteurs qui entourent les communes aussi de Saint-Rivoil. Donc, de Cizarin, de Prince-Par, du Helgoat, de l'Opérec, producteurs. Il y a aussi quelques artisans, Saint-Cadou, ce sont des locaux, on va dire, tout autour, on va dire, des habitants des Monts d'Arrée, des Ménards.
Quels sont les produits de saison du moment ?
Les produits de saison, est-ce qu'il reste du raisin ? Non. Si on prend les légumes, ça va être les poireaux, je ne sais pas très fort, les légumes. Les légumes racines, on va dire. Et les endives, les potimarrons, tout ça. Et puis bah, dans le magasin, il n'y a pas que des légumes. Hein. Après, il y a des produits qui sont, on va dire, toujours de saison. Des fromages, de la charcuterie, enfin voilà.
Est-ce que vous faites du click and collect,
Pardon ?
Est-ce que vous faites du click and collect ? Pourquoi la raison ?
Parce qu'en fin de compte, on a... ici, en fin de compte, sont vendus dans ce magasin peut-être 5 à 10% de ce que vendent les producteurs. Les producteurs, après, ils vendent chacun sur leur marché. Et puis le magasin, ici, l'idée, c'est quand même de faire aussi vivre aussi un peu la commune. Les gens, ils rentrent, ils sortent, on discute. Bon, on n'est pas là pour faire un drive avec mettre directement dans le coffre des voitures. Hein. On est plutôt aussi pour continuer à faire du lien social avec les habitants.
Moi j'avais une question. C'est un peu radical comme question, mais
c'est bien.
Je me suis demandé, c'est quoi la différence, enfin du moins qu'est-ce que vous rajoutez comme ingrédient pour faire du fromage comparé au beurre ?
Par rapport au beurre ?
Oui.
Bah déjà, le beurre et le fromage, c'est une bonne question. Le beurre et le fromage, déjà, c'est deux produits qui sont issus du lait, mais le fromage, c'est le lait entier. Le beurre, c'est que la crème. Donc là, tu écrèmes ton lait, tu gardes la crème. Ton lait écrémé va aller nourrir les cochons ou faire du fromage écrémé. Autrefois, c'était ça. Hein. C'était l'équilibre en Bretagne, c'était ça. On faisait du beurre dans toutes les fermes et on nourrissait les cochons avec le lait écrémé. C'était quelque chose de très 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 sensé, de très intelligent comme façon de faire. Et on est fainéants, on n'aime pas laver les crémeuses, alors on fait du fromage.
J'avais pas pensé ça comme ça, mais merci d'avoir répondu à la question.
Par contre, on peut faire du beurre, comme pour faire du fromage. Bon, peut-être qu'ici vous n'avez pas fait ça, mais on met des ferments qui vont acidifier la crème ou acidifier le fromage. Et souvent, c'est les mêmes ferments qu'on met pour faire de la tomme, du camembert, choses comme ça. C'est le même ferment que tu vas mettre dans le beurre pour faire la fabrication du beurre que pour la fabrication du fromage. Des ferments mésophiles. Mésophiles, tu vas acidifier le beurre, tu vas acidifier le lait, tu vas acidifier la crème.
Ah, bah c'est bien.
Ben voilà, il y a des écoles pour apprendre à faire du fromage, hein, c'est bien.
Quelles sont vos passions ?
Quelles sont mes passions ? Ah là là, c'est compliqué ça. Depuis que je suis en retraite, je suis un peu perdu, alors mes passions elles sont un peu éparpillées. Je dirais que beaucoup la cuisine, la politique, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, beaucoup d'engagement, voilà, de ce genre de... Voilà, mes passions elles sont peut-être là. Puis avoir plein de monde autour de la table, j'aime bien faire la cuisine, donc j'aime bien réunir du monde autour de la table. Voilà.
Ah bah c'est des chouettes passions quand même.
Le rugby.
Ah, le rugby, ouais. Ah.
Pas le foot. Hein.
Ah oui, ah bah, on est pareil.
Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, tiens, il y aura un futur fromager, là, c'est bien. Bon, bah, si vous ne savez pas que faire dans la vie, bah,
on viendra manger du fromage.
Ah non, manger, c'est après qu'on a travaillé. Et donc, le monde agricole cherche des bras et des paysans. C'est un métier qui se perd. Et donc, réfléchissez des fois, pensez à ça. Peut-être que demain... Donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, aller faire des études, aller travailler dans les fermes, et puis peut-être que ça vous prendra de devenir paysan.
Voilà, cette émission Aigle d'ITEP Jean-Louis Etienne, c'est terminé. Merci à toute l'équipe. On remercie Wyatt à la co-animation aujourd'hui. On remercie aussi Kevin pour sa répartie dans les reportages, sans oublier Dylan et Mathias qui ont participé à la prise de son et aux interviews. Et Wyatt, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle émission au printemps, toujours avec Monsieur Pierre-Yves et à l'Écomusée des Monts d'Arrée.
L'EM, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
L'EM, deuxième partie,